nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Jean Tullard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce deuxième volet consacré cette semaine à la bataille d'Austerlitz. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je précise que vous êtes le président de l'Académie des sciences morales et politiques et que l'historien que vous êtes est le spécialiste de la période napoléonienne en France. C'est donc en toute légitimité que vous pouvez nous raconter les détails de cette bataille. Alors hier, nous étions dans le pourquoi de cette bataille et nous avons vu que pour avoir la réponse, il fallait revenir quelques années en arrière, avant ce fameux 2 décembre 1805. Aujourd'hui, nous continuons à avancer dans le temps, nous nous rapprochons d'Austerlitz, nous sommes alors en septembre et sur le chemin des troupes françaises, il y a Ulm, Jean Tullard.
Oui, alors donc nous avons vu que l'armée de Napoléon, qui va recevoir, je crois que c'est le 25 août, le titre de grande armée, 7 fleuves avec 7 maréchaux, 6 maréchaux et Marmont, enfin on peut considérer comme maréchal, il va l'être après, donc sont en marche sur le Rhin.
Et alors les Autrichiens savent également que Napoléon se dirige vers eux et ils se préparent aussi à accueillir comme il se doit les Français, les troupes françaises.
Oui, mais ils ne s'attendent pas à un mouvement aussi rapide, d'autant que la jonction ne s'est pas faite encore avec les Russes. Les Russes ont été beaucoup plus lents qu'on ne l'avait prévu. Et d'ailleurs, il y aura des caricatures françaises qui les montreront à la façon des écrevisses, des caricatures montrant des écrevisses qui marchent à reculons.
Qui marchent
comme
à
chacun
reculons.
Sait. Donc, les Russes n'étaient pas prêts, n'arrivent pas. Et par conséquent, l'Autriche a attaqué en septembre la Bavière, seule, avec une armée que commande le général Mack. Donc, cette armée attaque la Bavière, mais pratiquement, elle l'attaque début septembre. En octobre, Napoléon est déjà en Allemagne. Alors, c'est ici que l'on voit comment éclate le génie de Napoléon, et nous allons voir son point culminant avec la bataille d'Austerlitz.
Il y a toute une stratégie, en
oui,
fait.
Oui, ça a été d'une très grande rapidité de mouvement, grâce à ses corps d'armée très mobiles et résolvant tous les problèmes d'intendance. Donc Napoléon est sur le Rhin, puis sur le Danube, beaucoup plus tôt que ne l'avaient prévu les Autrichiens, qui pourtant ont appliqué leur plan. Ils ont attaqué la Bavière, ils sont maîtres de la Bavière, donc pas de problème pour eux, mais ils attendaient l'arrivée des Russes. Les Russes ne sont pas là.
Alors les Autrichiens attendaient les Français
de la forêt noire. Donc ils pensent, puisque les Français sont arrivés, que ils vont surgir au débouché de la forêt noire.
C'était le chemin classique.
C'est le chemin classique, donc ils les attendent là. Mais Napoléon, il l'explique très bien dans le bulletin de la Grande Armée, ne va pas surgir là où l'attendent l'ennemi. Et ils auraient dû le savoir, puisqu'ils avaient déjà eu 2 campagnes d'Italie. Napoléon va manœuvrer pour arriver sur les arrières de Mack et lui couper la route de Vienne. Donc Mack va se retrouver manœuvré, attendant vainement les Français, avec les Français sur ses arrières et bloqué dans Ulm. Ulm, c'est une ville qui n'était pas avec un système défensif très très grand. Donc la manœuvre de Napoléon aboutit à l'encerclement d'Ulm. Alors comment Mack, qui n'était pas un mauvais général, a-t-il pu être aussi surpris? C'est ici qu'intervient la petite histoire, l'histoire anecdotique. Ce serait Schulmeister qui l'aurait induit en erreur. Donc le malheureux attendait Napoléon là où il ne surgit pas, et Napoléon est sur ses arrières.
En fait, Napoléon aurait fait travailler de faux espions.
De faux espions qui donc ont induit Mack en erreur. C'est très caractéristique, vous voyez, des batailles napoléoniennes. La bataille napoléonienne, c'est une bataille de mouvement. Ça consiste, si vous voulez comprendre la stratégie napoléonienne, ça consiste à fixer l'adversaire sur un point. Fixer l'adversaire sur un point, en mettant d'ailleurs une armée devant lui, mais où Napoléon ne met pas toutes ses forces. Et une partie du reste des forces de Napoléon va aller s'installer sur les arrières. Et avant que l'ennemi se soit perçu que l'adversaire était sur ses arrières, on l'a obligé à se donner à fond, à engager toutes ses réserves. Ce qui fait que lorsque le général ennemi s'aperçoit qu'il y a aussi des forces napoléoniennes dans son dos, il n'a plus de réserves, puisqu'il a engagé toutes les réserves dans sa ligne principale de front. Donc il est forcé de dégarnir sa ligne de front, et de ce fait, Napoléon n'a plus qu'à s'engouffrer.
Alors le 20 octobre, Ulm capitule.
Oui.
Et donc l'armée autrichienne rend les armes et le général Mack veut rendre son épée à Napoléon. Napoléon refuse de prendre son épée. Alors est-ce que c'est par morale militaire qu'il refuse de prendre son arme symboliquement, ou est-ce que c'est par stratégie? Est-ce que derrière il essaie de se faire un allié?
C'est pas par souci de se faire un allié, c'est, vous savez, tous les gestes de Napoléon sont conditionnés par la propagande. Donc il s'agit d'immortaliser le fait, vous savez, il y a eu une très belle exposition à la bibliothèque Marmottan sur les clémences de Napoléon. Donc Napoléon fait un geste qui vise à passer à la postérité et à impressionner l'opinion. En tout cas, c'est un détail. Napoléon est maintenant maître d'Ulm et il n'a plus qu'à foncer sur Vienne. Il a anéanti l'armée autrichienne qui attaquait la Bavière. Mais il ne s'agit que d'une des armées de l'Autriche. L'autre armée est beaucoup plus loin, loin de Vienne, prête à faire sa jonction avec les Russes, jonction qui va se faire à Olmutz. Et de Napoléon donc à la route de Vienne ouverte, et il, grâce à une astuce de Murat, Vienne ne se défendra pas. Murat
oui.
fait croire que.
Oui. Alors justement, donc en fait, ils traversent Munich, hein, ils passent oui. Munich, ils arrivent à Vienne, et puis donc Vienne en fait ne souhaite pas vraiment, comment dire, répondre en tout cas à la guerre. Hein.
Oui,
ils
oui,
sont
oui.
assez réticents.
Oui. Et d'ailleurs donc, alors Murat fait croire qu'il y a eu un armistice, donc les Français pénètrent dans Vienne.
Parce que
Vienne
au départ,
qui les accueille avec enthousiasme.
Au départ, ils souhaitaient brûler les ponts, c'est ça
oui,
en fait.
C'est hein. ça. Et donc Vienne, on ne brûle pas les ponts puisqu'il y a un accord soi-disant qui
l'armistice,
a été fait.
Voilà.
L'armistice fait que donc et c'est faux. Donc les troupes françaises pénètrent dans Vienne, mais sont très bien accueillies dans Vienne. Il n'en sera pas de même lors de la deuxième occupation de Vienne en 1809. Donc Napoléon est maître de Vienne. Il aurait théoriquement gagné la campagne. Il a gagné la campagne puisque il est maître de la capitale de l'Autrichien. Et seulement François II n'y était pas. Il reste des forces importantes, très importantes autrichiennes, donc le meilleur général autrichien, l'archiduc Charles, qui n'était pas à Vienne, qui n'ont pas été vaincus, et surtout arrivent les Russes. La jonction entre les forces autrichiennes et les forces russes se fait à Olmutz. Donc, vous voyez que la bataille, la campagne n'est pas encore gagnée. Mais remarquez comment Napoléon a procédé très rapidement. Manœuvres. Ce sont uniquement des manœuvres d'enveloppement avec une très grande rapidité d'exécution.
C'était comme un jeu de dames, en fait.
C'est comme un jeu de dames, mais on joue très vite. Hein, alors, vous avez raison, c'est un jeu de dames, c'est aussi un jeu d'échecs. Et nous allons voir avec la bataille de Sierlitz comment... Pour l'instant, ce ne sont que des manœuvres, mais qui visent à amener l'adversaire sur un lieu précis pour la bataille, elle, décisive. Sinon, la campagne n'est pas terminée. Donc, vous constatez, et cela saute aux yeux, que le génie militaire de Napoléon est supérieur à celui de ses adversaires. Il réfléchit, il a une intelligence stratégique. Il y a aussi, et là maintenant il faut quand même l'évoquer, il y a aussi cette armée qui manœuvre, qui, je vous le rappelle, était à Boulogne trois mois avant, et qui se retrouve ainsi. Napoléon dispose pour ses manœuvres d'une armée qui est une armée jeune. C'est une armée de conscrits. La conscription a été établie par la loi Jourdan d'Elbrel sous le Directoire. C'est pas Napoléon qui l'a inventé, mais cela assure chaque année un contingent de jeunes soldats qui vont faire leur service. La France est à l'époque non seulement le pays le plus peuplé, vous me direz la Russie, l'Empire austro-hongrois, mais ce sont des marqueteries de peuples. Là, la France est le pays homogène, de façon homogène, le plus peuplé et le plus jeune. C'est d'ailleurs pourquoi...
Il avait donc une force vive.
Il y a une force vive. Donc, il a véritablement des soldats. C'est une armée nationale, ce n'est pas une armée de mercenaires, c'est donc une armée qui ne grognera pas. Enfin, bien qu'on parlera des grognards ensuite. C'est une armée, donc, jeune, qui, et ce ne sera pas le cas ensuite, a été entraînée au camp de Boulogne. Elle a été formée pendant 2 ans, ce qui ne sera plus le cas ensuite parce que les levées de conscrits, on aura à peine le temps de les former, en route. Mmh. Là, c'est une armée supérieurement entraînée et qui comprend, évidemment, un encadrement exceptionnel puisque ce sont des maréchaux, soit ayant occuper des emplois subalternes dans l'armée de l'Ancien Régime, des commandements subalternes, soit qui sont sortis du rang. Mais ils s'appellent, je le rappelle, Ney, Davout, Augereau, Bernadotte, Lannes. Ça, ce sont ceux qui commandent Soult, ce sont ceux qui commandent les sept fleuves. Mais il y a la garde, commandée par Mortier, avec la réserve de la cavalerie commandée par Murat. Et les généraux qui servent dans ces manœuvres s'appellent de futurs maréchaux comme Suchet et Oudinot, qui s'appellent Gudin, Friant, Boursier, Lassalle. Bref, on n'a jamais eu, je crois, dans notre histoire, une armée comparable, une armée jeune, une armée motivée, une armée entraînée.
Et une armée aussi qui a besoin d'argent aussi pour continuer à pouvoir avancer. Et en étant à Vienne, Napoléon a récupéré un butin assez intéressant.
Oui, alors ça, c'est l'autre grand principe des guerres napoléoniennes, vous avez raison de souligner, c'est que la guerre paie la guerre. Et nous verrons, dans la conclusion de cette campagne, la contribution de guerre que Napoléon exigera de Vienne, qui lui permettra de subventionner ensuite la guerre contre la Prusse, mais là, j'anticipe.
Et donc, le 19 novembre, les Français entrent à Brno, qui est donc actuellement en République tchèque, situer géographiquement. Et le 20 novembre, Napoléon est décidé à se rendre à Austerlitz. Le 30 novembre, les troupes parcourent 36 lieues en 36 heures, ce qui est quand même pas une mince affaire, pour 200 000 hommes, pour pouvoir combattre à Austerlitz.
Oui. Donc, vous voyez, nous arrivons dans ces manœuvres au point culminant, c'est-à-dire à la bataille décisive, celle qui va terminer la campagne.
Merci Jean Tullard, on se retrouve pour évoquer cette fois-ci la veille du 2 décembre, le 1er décembre au soir, et la fameuse bataille d'Austerlitz. Merci.